Je suis très honoré d'être invité par Cité Philo, puisque ces 8 dernières années, je faisais partie de ceux qui invitaient les intervenants et qui les interrogeaient, et je me retrouve pour la première fois dans la position inverse de celui qui est invité pour parler d'un livre. Je connais François Julien grâce à Cité Philo, puisque je l'avais reçu en 2008, il y a 4 ans. Avant, j'étais un lecteur occasionnel de François Julien, et donc depuis ma rencontre avec lui, on s'est revu plusieurs fois, et je me suis mis à le travailler sérieusement, d'où une rencontre autour de son travail qui a eu lieu au couvent de la Tourette, près de Lyon. Le couvent de la Tourette est un couvent dominicain construit par Le Corbusier, qui a l'habitude de recevoir des philosophes depuis 30 ans. Lévinas, Ricoeur, Michel-Henry, Derrida sont venus, et donc dans cette tradition de dialogue avec des philosophes, j'ai invité François Julien pour un séminaire de travail à propos d'un livre qu'il s'apprêtait à publier et qui devait avoir pour titre, parce qu'il n'est pas paru ensuite, qui devait avoir pour titre « Moïse ou la Chine ?», point d'interrogation, qui est une formule de Pascal dans un fragment des Pensées, et qui consistait à interroger la question de Dieu telle qu'elle se développe en Occident à partir du dehors chinois, sachant que Dieu ne se développe pas en Chine, que l'idée de Dieu ne prend pas, si je puis dire, dans la pensée chinoise. Et donc François Julien est venu au couvent de la Tourette, où nous avons passé 2-3 jours à dialoguer, discuter, proposer des communications, qui donnent lieu donc à ce livre, qui a pour titre... Donc, en lisant François Julien, il s'agit de travailler à partir de François Julien. On aura l'occasion d'expliquer qui est François Julien, si vous ne savez pas. Donc, il s'agit de lire François Julien, de travailler avec lui, et en particulier la question du Dieu chrétien, et donc du rapport entre le Dieu grec et le Dieu biblique, donc la question de la métaphysique, donc la question de ce qu'on appelle l'ontothéologie, c'est-à-dire la manière dont... la métaphysique en Occident a pensé à la fois Dieu et l'être, et donc de travailler avec lui, avec des philosophes et des théologiens, cette question. Voilà un peu pour expliquer la genèse de ce livre qui est paru il y a quelques mois, en février dernier. Je ne sais pas si Bernard veut ajouter des choses.
Non, moi je vais bien partir après pour exposer ce que j'ai envie d'exposer. Mais non, simplement ce que j'ai envie de dire, c'est oui, j'ai fait partie de ceux qui voulaient travailler avec François Julien depuis de longues années, puisqu'on s'est rencontrés à Paris 7, où il était mon collègue, dans un autre département, dans un séminaire qu'il avait créé, un institut qu'il avait créé, qui n'existe plus, l'Institut Marcel Granet. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, de discuter avec lui, mais vraiment discuter, c'est-à-dire partant de points de vue divergents, en même temps essayer de se rencontrer. Et le mérite principal que je retrouve à François Julien, c'est à la fois de s'intéresser à la Chine, et c'est très intéressant d'essayer de partir de la Chine et de quitter au maximum la maison Occident. Et en même temps, du coup, de nous faire prendre conscience que l'histoire de la métaphysique dont parle à l'instant Pascal David, c'est une histoire qui est profondément contingente, c'est-à-dire qui est nourrie de possibles qui, à un moment donné, ont été éveillés puis ont été abandonnés, ce qui donne de la ressource pour penser au-delà. C'est ça, là-dessus, que je me rencontre avec François Julien.
Je peux dire encore. Oui, François Julien, vous l'avez peut-être rencontré puisqu'il est venu la semaine dernière... le 14 novembre, ici, pour parler d'un de ses derniers livres. Mais je vais en dire un mot, parce que vous êtes peut-être venu pour le thème, sans savoir qui est François Julien. Donc je vais présenter rapidement François Julien. Alors je lis tout de suite. Pour moi, François Julien est un des 3 ou 4 plus grands philosophes français vivants. C'est un des philosophes qui apporte le plus, aujourd'hui, de nouveautés dans la réflexion philosophique. C'est un homme qui a une 60aine d'années, et qui, jeune normalien, agrégé de philosophie, en 1975, décide de partir en Chine pour apprendre le chinois dans le but d'interroger la pensée occidentale depuis un dehors, le dehors chinois, avec cette idée que l'on ne peut comprendre la pensée occidentale qu'à partir d'une position de dehors, que si on est dans la pensée occidentale, on n'y accède pas, on ne peut pas la comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre quels en sont les présupposés. Il y a des manières de voir le monde qui nous paraissent naturelles, par exemple qu'il y a du temps, qu'il y a des choses, peut-être moins, mais peut-être quand même qu'il y a des personnes, qu'il y a des sujets, que le monde a un début, que l'on agit en vue d'un but. Toutes ces manières de penser, ces habitus qui sont pour nous naturels, passer par la Chine permet de voir que ces manières de penser sont culturelles, sont inscrites ou données à penser dans la langue, dans les langues que nous parlons. En Chine, certes, il n'y a pas de Dieu, mais il n'y a pas de personne, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de but aux actions. La manière de se rapporter au monde, sans donner un statut conceptuel à ce terme, la manière de se rapporter au monde est radicalement différente, ou plutôt indifférente, à nos manières de nous rapporter au monde, sans rapport avec les manières que nous avons, nous, de nous rapporter au monde. Donc passer par le dehors chinois, faire un détour par la Chine, permet justement de saisir cela, saisir que ce qui pourrait nous paraître naturel, en réalité ne l'est pas. Que nous pensons à partir d'un impensé, comme dit François Julien, à partir d'une d'habitude de penser qui, en réalité, ne vont pas de soi. Voilà. Et donc, cette idée-là, François Julien va la développer dans une trentaine d'ouvrages qu'il publie depuis une trentaine d'années, qui a amené donc à s'interroger sur les partis pris de la pensée occidentale, en confrontant, en construisant un vis-à-vis entre la pensée occidentale et la pensée chinoise. Il me semble que François Julien, également, et depuis quelques années, est en train de construire une philosophie qui se déploie autour de la question de ce que veut dire vivre, dans des ouvrages comme « Nourrir sa vie à l'écart du bonheur » ou récemment « Philosophie du vivre ». Et d'autres ouvrages à paraître, mais on en parlera à la fin. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, vous évoquez la rationalité, donc pour essayer de prendre un fil pour comprendre cette pensée si complète, pas nécessairement complexe, mais très complète. Donc vous évoquez la rationalité. La rationalité constitue-t-elle, selon vous, un angle d'attaque cohérent pour aborder et essayer de comprendre cette confrontation de cultures ? Ou comment s'y prendre ?
Là, c'est une question difficile. Moi, je prendrais peut-être pas les choses de cette façon-là. Je m'excuse, mais parce que justement, l'intérêt de François Julien, c'est de mettre en cause une certaine histoire de la rationalité, une certaine histoire de la rationalité qui est liée, qui s'appelle l'histoire de la métaphysique. Et qui est né en Grèce à un moment donné, qui s'est développé ensuite, qui a pris le visage de la métaphysique chrétienne, et puis qui s'est déployé ensuite sous la forme du triomphe de la science, et aujourd'hui de ce que Heidegger appelle l'essence de la technique. Hein, dans Essai Conférence, le texte qui s'appelle, enfin qui a été traduit sous le titre l'essence de la technique, c'est plutôt le déploiement, et si je commentais, le déploiement infernal de la technique, dans lequel on est tous plongés. Ce qui fait qu'au fond, la question qui se pose est moins celle de la rationalité que celle de l'étau dans lequel on est pris aujourd'hui, que j'appellerais aujourd'hui effectivement le règne terrifiant de la technique, et l'oubli de ce que alors Heidegger appelle l'être, et on va voir de quelle façon ce que Heidegger appelle l'être, c'est aussi en rapport avec ce que François Julien trouve en Chine sous le nom de Tao. Lui, il pourrait, et c'est à discuter, bien entendu, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'affinité en ce sens entre la démarche de Julien et celle de Heidegger que François Julien le croit lui-même. Et de ce point de vue-là, je le suis tout à fait. Et par conséquent, l'intérêt, c'est qu'alors que cette domination terrifiante de la technique est en train de se répandre partout, universellement, rien n'y échappe. La Chine ne va pas y échapper. J'en ai discuté souvent avec François Julien. Il le montre d'ailleurs dans un petit essai que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le pont des singes ». Où il fait allusion à ça, c'est-à-dire que le sujet humain est un sujet aujourd'hui menacé de déterritorialisation, de perte de toute localité et de toute identité. Et donc la Chine, elle ne sera plus chinoise, elle va devenir aussi absolument technique et scientifique, ou scientifico-technique, ou comme vous voudrez, que l'Occident. Donc le problème, c'est de trouver des ressources de résistance à cela, aussi bien, à mon avis, du côté de l'Occident, et par exemple de la Grèce, mais aussi du christianisme, en tant qu'il est irréductible, à mon avis, à l'histoire de la métaphysique, que du côté que nous ouvre heureusement François Julien, du côté d'une Chine ancienne, traditionnelle, même si je trouve, si je peux me permettre un point de discussion, qu'il va un peu vite en disant « la Chine n'est pas religieuse, la Chine ne développe pas l'idée de Dieu ». Il y a quand même une religion chinoise ancienne, il y a quand même des divinités en Chine, et ça qu'il l'a développé. Moi, j'ai relu récemment Henri Maspero, Marcel Granet ou Henri Lévy, les fonctionnaires divins. Donc, il y a un rapport en Chine au divin, mais qui n'est certainement pas, en effet, le rapport qui s'est prononcé en Occident, soit en Grèce, soit du côté de la Bible et du christianisme. Voilà ce que je pourrais répondre à votre question.
D'accord.
Je peux...
Oui, bien sûr.
Alors... en réaction, comme ça on va réagir chacun à ce que dit l'autre et répondre à vos questions à fur et à mesure. La mise en scène occidentale, si vous voulez, consiste à penser le monde à partir d'un dehors. L'idée de Dieu, telle qu'elle s'est développée en Occident, c'est l'idée suivante, il y a un dehors du monde. Le monde n'est pas le tout de la réalité. Il y a un dehors du monde, et ce dehors du monde, c'est justement celui qu'on appelle Dieu. Cette mise en scène, cette mise en récit qui a fondé l'Occident, c'est ce que l'on trouve, par exemple, au début de la Bible, au verset 1 de la Genèse. On a, si vous voulez, un récit de création avec un personnage qui est une voix, donc il y a la parole à l'origine, une voix qui fait advenir le réel depuis un dehors. Le récit de la Genèse, c'est comme il y a une voix off qui fait surgir les choses à fur et à mesure qu'elles sont nommées. Donc d'abord il y a un langage, une parole qui précède les choses, et c'est une parole qui fait advenir les choses, et donc il y a un dehors. Voilà. On pourrait montrer que cette idée d'un dehors est l'idée centrale, il me semble, de l'Occident, c'est ce qui permet la physique classique, c'est ce qui permet ensuite la relativité, etc. Toute la science, telle qu'elle se développe en Occident, suppose cette position d'un dehors. Voilà. Et la mise en scène biblique, c'est ça. C'est l'idée que le monde n'est pas le tout du réel, mais il y a un dehors. Or, en Chine, il n'y a pas de dehors. Il n'y a pas d'idée de Dieu qui se développe. Donc certes, en Chine, on peut dire qu'il y a une religion au sens où il y a des rites, mais il n'y a pas... il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas quelqu'un auquel on s'adresse. Alors qu'en Occident, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, c'est celui auquel on s'adresse. Donc l'Occident a développé le thème de la parole comme adresse à Dieu. On peut ici opposer, si on fait un travail d'opposition de texte, d'un côté ce que dit Confucius. Confucius, dans les entretiens, dit « le monde ne parle pas ». Alors que...
Il dit le ciel ne parle pas.
Le ciel ne parle pas, alors que, par exemple, chez saint Augustin, dans les Confessions, la nature parle, et la nature s'adresse à saint Augustin en lui disant « Dieu est notre Créateur ». Donc la nature parle en Occident, alors que le monde, le ciel, ne parle pas en Chine. Donc il y a un rapport à la parole distinct. Bernard Sicher a employé le terme « ressource ». Le terme ressource est un terme important dans la pensée de François Julien. François Julien voit les différentes cultures comme des ressources. L'Occident, la métaphysique, donne une certaine ressource pour penser. Donc une ressource, c'est quelque chose qui est fécond, quelque chose qu'on utilise et qui est fécond. De la même manière qu'il faut préserver les ressources naturelles, dans le monde, il y a des ressources limitées, il faut les préserver. De la même manière, dans la pensée, il y a des ressources, et ces ressources, il faut les faire travailler, il faut les faire fructifier. La métaphysique occidentale, le christianisme, offre des ressources pour penser. Ça a permis la science, donc la technique. Mais la Chine offre d'autres ressources, ressources qui sont à même la langue chinoise. Donc ça suppose d'apprendre le chinois, bien sûr. Je crois qu'on n'accède pas à cette ressource de la Chine si on n'apprend pas la langue chinoise. Donc voilà, faut travailler à partir de la langue. Et la Chine fournit des ressources pour penser certaines choses que l'Occident pense pas. Par exemple, l'Occident a pensé la perception, mais n'a pas pensé la respiration. L'Occident a pensé la spiritualité, mais n'a pas pensé la santé. Donc il y a toute une pensée de la santé en Chine, de la respiration, donc de vivre, du vivre. La Chine permet de penser ce que veut dire vivre, etc.
Merci beaucoup. Donc vous parlez de ce dehors, vous parlez de la parole dans la tradition chrétienne, mais vous parlez aussi de l'indicible, du sens caché des cultures. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ce point, sur cet indicible, Monsieur Sicher?
Oui, mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Pascal David, parce que précisément c'est là-dessus que je porterai mon attention, sur cette question de la parole. C'est vrai, en un sens, d'opposer le dehors qui parle dans la dimension chrétienne, j'ai bien compris, il ne s'agit pas du monde grec, là, il s'agit de la Bible hébraïque et du christianisme. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire si rapidement que c'est le christianisme qui a rendu possible la science, ça me paraît plus compliqué comme histoire.
Oui, bien sûr.
Mais bon, je passe là-dessus, c'est pas seulement ça l'intéressant là pour notre rapport à ce que dit François Julien, c'est que le fait que le ciel ne parle pas, comme il le dit en Chine, enfin il cite là Haotse, le ciel ne parle pas, pourquoi le ciel parlerait-il? Cette fonction de la parole vive, c'est vrai que c'est là-dessus que, avant l'expérience chrétienne, l'expérience hébraïque est constituée. Moi, c'est ce que j'ai appris en lisant Néer, l'essence du prophétisme, etc. Et le prophétisme et le messianisme, ça suppose la dimension de la parole comme quelque chose de créateur. Et la parole, elle vient d'en haut, elle vient d'ailleurs, elle vient de l'autre auquel on va répondre. Ce qui rend possible quoi? Ben, justement, ce qui me frappe, c'est que François Julien y voit justement quelque chose qui a constitué le sujet en Occident. Donc, c'est une ressource en même temps. Si c'est une différence, c'est une ressource. Je voulais citer ce qu'il en dit. Et c'est important parce que c'est dans deux moments très, très, très précis de deux de ses livres, c'est-à-dire « Philosophie du vivre » que vous avez évoqué, Pascal, tout à l'heure, et puis « Entrer dans une pensée ». À propos justement de la mort de Dieu de Nietzsche, ça c'est dans Philosophie du vivre, qui est peut-être d'ailleurs pour moi, parmi tous les livres récents, un des plus intéressants philosophiquement et un des plus poussés. Oui, il développe le mieux sa position, qui est beaucoup moins, je dirais, schématique qu'elle n'apparaît dans d'autres textes où son propos est moins libre, doit être plus démonstratif immédiatement. Il dit à propos du mutos, puisqu'il suppose une distinction constante entre le mutos, qui est quelque chose, la Bible serait du côté du mutos, qui est un mot grec pourtant. Bon, les divinités grecques sont du côté du mutos. Hésiode, qu'il cite d'entrer dans une pensée, la théodicée d'Hésiode, c'est du côté du mutos. Alors que le logos, c'est ce qui a fini par s'imposer sous la forme philosophique, sous la forme proprement métaphysique en Grèce, et c'est ça qui a été repris, je dirais, à une certaine date, pas au début en tout cas, par le christianisme, que le christianisme a fini par récupérer et digérer d'une certaine manière qu'il faudrait regarder de très près. Mais il dit ceci à propos de, justement à propos de la mort de Dieu de Nietzsche, il dit, de ce grand mutos, c'est page Philosophie du vivre, page 11, de ce grand mutos religieux, nous prétendrions volontiers aujourd'hui être défaits. Ce que lui semble dire d'ailleurs par moment, le grand récit, c'est fini. Mais se libère-t-on si facilement de l'argument qui le fonde? Et sinon, que vaut cet affranchissement proclamé? Satisfaction équivaut à déception. En a-t-on desserré l'étau? Autrement dit, cesserons-nous jamais d'être pascaliens? Ce pascalien que chacun se découvre au fond de soi en Europe, dès lors que l'on gratte un peu. Nietzsche lui-même en a été marqué, admirant cette perspicacité psychologique, qui n'a pas peur de jeter un regard dans l'abîme et se moque des atermoiements. Il dit, et un peu plus haut, il dit, on a quitté là le cycle élémentaire de la déperdition-restauration vitale que dénonçait Platon. Voici que la fin est devenue un vide intérieur par déploiement chrétien de la figure du sujet, par déploiement chrétien de la figure du sujet. Voilà, et je pense qu'il en dit encore plus dans le plus récent, c'est-à-dire dans Entrer dans une pensée qui n'était pas éditée au moment où nous avions mené notre débat au couvent de la Tourette. Il le dit encore plus, d'une manière plus frappante, il le dit de la manière suivante, à propos de la mort de Dieu de Nietzsche, toujours, page 104 et suivante. L'affirmation par la démonstration que Dieu n'est pas, ne l'évince pas. S'en est-on suffisamment arrêté sur cette résistance? Notre rationalisme, c'est une question sur la rationalité, justement, que vous posiez légitimement tout à l'heure. Notre rationalisme l'a-t-il suffisamment médité? Et je crois que la difficulté de Julien, mais est en un sens la même que celle de Heidegger, comment se séparer d'une certaine conceptualité métaphysique sans pour autant renoncer à l'intelligibilité. C'est la difficulté, effectivement. Comment tourner le dos à l'histoire de la métaphysique sans quitter le mode de la pensée de l'intelligibilité. C'est-à-dire comment être hors concept sans être dans l'inintelligible. C'est une question que lui-même, sur laquelle lui-même revient sans arrêt. Un tel possible est porté en effet ou fécondé par une cohérence interne, à la fois d'auto-justification et d'auto-déploiement, qui ne le rend jamais complètement accessible à quelque inquisition du dehors. Et il dit ceci, on sait que ce qu'on appelle la conscience est un fruit vénéneux peut-être, mais lentement mûri, et c'est à Dieu, plus qu'à l'objet, quitte à l'appeler ensuite, comme à l'époque classique, quand triomphe la science, le grand objet, et là on est absolument dans l'ontothéologie, qu'il revient d'avoir fait apparaître quelque chose comme une subjectivité. C'est donc au christianisme qu'il revient d'avoir fait apparaître quelque chose comme une subjectivité, et ça c'est aussi ce que, au fond, démontre le dernier Foucault, je dirais, dans son travail, même s'il va d'abord chercher du côté, en effet, de l'Antiquité. Mais c'est ça qu'il traque. Car ce possible, une fois engagé, vous voyez, il dit bien ce possible, on pourrait dire cette ressource de la subjectivité, qui n'apparaît qu'avec, moi je dirais, la Bible juive et puis le christianisme. Ce possible, une fois engagé, dispose lui-même de l'expérience et suffit à la reconfigurer. Autrement dit, là on a une page qui montre bien qu'il ne s'agit pas de se contenter de dire le christianisme c'est fini, la religion c'est fini, Dieu est mort, ne nous en occupons plus. Non, puisque ce qui en ressort, c'est une figure à la fois de la parole vive et d'une subjectivité liée à cette parole vive. Voilà ce que j'entends dans ce texte, entrer dans une pensée qui est par ailleurs assez critique, en effet, on peut dire assez critique sur un aspect de la Bible, mais opposable, en effet, à ce qui en Chine ne lui correspond pas du tout. Et donc ouvre à nouveau un possible aussi, de l'intérieur de notre histoire. Parce que je ne crois pas qu'il fasse non plus de nous imaginer que nous allons devenir chinois, à l'heure où d'ailleurs, où les Chinois sont-ils encore suffisamment chinois au sens de François Julien, c'est pas sûr du tout.
Merci beaucoup.
Enfin, je veux dire la chose suivante. On arrive à un moment de l'histoire où on ne peut plus ignorer la Chine. Donc François Julien a cet intérêt-là de nous permettre, à nous occidentaux, de découvrir en profondeur ce que c'est que la culture chinoise et comment ça fonctionne en Chine. Et je crois que un des intérêts du livre dont nous parlons aujourd'hui, un des premiers intérêts, c'est celui-là. C'est d'essayer de nous faire entrer dans la pensée de François Julien, mais par là même, d'essayer de nous faire entrer dans la Chine, dans ce que c'est que la Chine. Mais il faut dire immédiatement que François Julien ne choisit pas la Chine contre l'Occident. Ce reproche qu'on lui a fait à tort, François Julien ne joue pas la Chine contre la métaphysique occidentale. La métaphysique occidentale. De fait, la métaphysique en Occident est aujourd'hui épuisé. En ce sens-là, il est juste de dire que Dieu est mort, c'est-à-dire que le concept de Dieu n'a plus d'effectivité, ni dans la pensée, il me semble, ni dans notre vie quotidienne. Mais on peut... Alors, donc il s'agit de sortir de la métaphysique. Il y a une voie qui n'est pas celle de François Julien pour sortir de la métaphysique, c'est la phénoménologie, qui essaye de penser en dehors de la métaphysique, la question de Dieu. Ce qui est intéressant chez François Julien, c'est que il n'abandonne pas la métaphysique. Au contraire, il cherche à réactiver les ressources de la métaphysique, mais il montre que il s'agit de jouer, de se déplacer entre différentes ressources, celles que fournit la métaphysique et celles, au pluriel, que fournit la Chine. Autre chose que je voulais dire par rapport au livre dont nous parlons, c'est que ce qui m'intéresse chez François Julien, c'est qu'il permet de réouvrir de l'intelligibilité dans la théologie chrétienne et dans la lecture de la Bible. François Julien permet de découvrir des possibilités de lecture, une intelligibilité, des possibilités de compréhension de ce que c'est que la Bible, des textes bibliques, de ce que c'est que la Trinité, l'incarnation, la rédemption, le salut, le vivre chrétien, etc. Il permet de réactiver ces choses-là. C'est en ce sens-là que je pense qu'on peut utiliser François Julien comme un outil pour réactiver la tradition chrétienne.
Oui, ah ben, je veux bien suivre, bien sûr. Oui, vous avez tout à fait raison. Simplement, je voulais remettre au point quand même la question à Heidegger, parce qu'elle me paraît au centre de tout ça. C'est là-dessus que j'ai une discussion depuis plusieurs années avec François Julien, qui prend d'ailleurs position sur Heidegger dans « Philosophie du vivre ». C'est la seule fois que, pour l'instant, il essaie de s'expliquer sur son rapport à Heidegger, jusqu'où le suit-il, à partir de quel moment il refuse de le suivre. C'est un point d'éventuelle divergence entre nous, mais la divergence est une bonne chose, d'ailleurs, hein, dans la mesure où tout est clarifié et où on peut toujours en discuter, bien sûr. C'est qu'on parle, depuis tout à l'heure, on parle de termes qui n'existent que depuis Heidegger. Histoire de la métaphysique, c'est un terme heideggerien. Bon, sortir de la métaphysique, c'est une expression heideggerienne. Donc, ce que nous disons, ça c'est ma conviction profonde, est configuré depuis fort longtemps, y compris dans la philosophie française, par rapport, je ne dis pas à la suite d'eux, mais par rapport à ce qu'a essayé de dire et de penser Heidegger. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, secondaire là-dessus. C'est lui qui a alimenté cette terminologie et le fait de penser dans cette terminologie. Et moi, d'ailleurs, je m'en réjouis. Simplement, j'ai compris peu à peu en lisant Heidegger, ce qui n'est pas si simple. C'est une pensée qui est cursive, qui est longue, qui est méticuleuse, dans laquelle on ne rentre pas tout de suite, mais que sa conviction profonde était qu'en effet, la métaphysique était arrivée, je dirais, à son maximum, plutôt. C'est pas qu'elle avait plus grand-chose à dire, mais qu'elle était à son maximum. Et quand il emploie le terme qui est traduit par essence, d'ailleurs, c'est « Wesen ». Et Wesen, il est allé le rechercher comme un vieux verbe du haut allemand qui veut dire séjourner. Donc quand on traduit essence de la métaphysique, c'est pas essence, c'est, je pourrais dire, une sorte d'équivalent métaphorique, c'est là où la métaphysique bat son plein. C'est ça que ça veut dire Wesen des métaphysiques. Et essence de la technique, ça veut dire là où la technique bat son plein. Et la technique pour Heidegger, c'est pas autre chose que la métaphysique. C'est la métaphysique arrivée à son stade ultime, où elle tourne en rond, je dirais, d'une certaine manière, par-delà le sujet et l'objet. Il n'y a plus quasiment ni sujet ni objet. Il n'y a plus que ce qu'il appelle la volonté de volonté. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas ne pas fonctionner. Et il dit d'ailleurs, non sans humour, à un moment donné, il dit, mais justement, ce qui est le plus effrayant avec ce règne de la technique, c'est que tout fonctionne. Ce qui est effrayant, c'est que tout fonctionne là-dedans. Et qu'en un sens, il n'y a plus de subjectivité, mais il n'y a plus non plus d'objectivité. C'est une machine devenue folle qui tourne sur elle-même. Et c'est ça qu'il essaie d'expliquer. Et ça, c'est pas du tout autre chose que la métaphysique. C'est une figure ultime de la métaphysique parvenue à son comble. D'où la question, comment en sortir? Comment en sortir? Lui dit méthodiquement, il utilise une autre méthode, effectivement, que celle de François Julien, mais elle se soutient. C'est tout retraverser pour voir comment... En repérant à tel ou tel moment ce qui a été abandonné, ce qui a été perdu, on finisse par s'appuyer dessus pour enfin en sortir. Mais enfin en sortir, d'ailleurs, c'est un terme qui veut dire relever, comme on dit relever de maladie. Il faut relever de la métaphysique, et pour relever de maladie, il faut faire l'épreuve de la maladie. Il faut la nourrir en soi-même pour pouvoir ensuite développer des anticorps. C'est un peu ça que je dirais sur la méthode de Heidegger, mais Heidegger n'est pas sans avoir pensé à François Julien, qui ne le connaissait pas évidemment, mais d'une certaine manière, c'est dans son dernier livre, Acheminement vers la parole, l'entretien entre le philosophe occidental, qui est Heidegger, et un disciple japonais. Et c'est intéressant et amusant parce qu'on voit ce disciple japonais déjà occidentalisé, qui essaie de lui dire, mais il essaie de s'exprimer en termes de la métaphysique occidentale. Et Heidegger lui dit à chaque fois, mais non, et pas du tout, je vous en publie. Mais dites-moi comment vous, en japonais, vous dites la beauté, par exemple. Comment vous dites l'expérience de la beauté. Et puis petit à petit, il essaie de conduire ce japonais à faire travailler sa langue japonaise. Et je crois que la méthode de François Julien, elle va dans ce sens-là aussi, faire travailler la langue chinoise, puisqu'il connaît, il a la chance de connaître la langue chinoise, pour voir ce qu'elle peut dire, ce qu'elle ne peut pas dire, et de quelle manière elle nourrit une forme de pensée qui n'est pas la pensée métaphysique. Mais ça ne veut pas dire, en effet, comme vient d'expliquer Pascal David, qu'il ne s'agit pas du tout de tourner le dos à l'Occident pour devenir chinois. Parce qu'encore une fois, je le maintiens, les Chinois qui aujourd'hui sont capables de suivre le travail de François Julien, je ne suis pas persuadé que c'est la majorité des Chinois qui sont aujourd'hui partis à la conquête commerciale et financière du monde, bien entendu, et devenir la plus grande puissance du 21e siècle et de la suite. Donc ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'il a tout à fait raison et que, de ce point de vue-là, ça nous offre une façon de nous regarder dans notre finitude, parce qu'Heidegger a beaucoup insisté là-dessus. L'Occident, c'est fini. c'est une, quelque chose de, qui est délimité, effectivement. Comment en sortir? C'est très important d'écouter l'autre. Et c'est pour ça que l'entretien avec le japonais, c'est laisser le japonais parler, laisser me dire comment en japonais il dit ce que moi je dis dans la tradition de la métaphysique occidentale concernant la beauté, l'œuvre d'art, etc., comment lui le dit. C'est pour ça que je trouve très intéressant, d'ailleurs, entre parenthèses, le livre de Julien sur la peinture chinoise, où il montre bien la divergence entre peinture chinoise et peinture occidentale. Il ne s'agit pas de, non plus de jouer la peinture chinoise contre la peinture occidentale, ce serait tellement idiot, mais de montrer à quel point la peinture occidentale est liée à ce devenir de la subjectivité et qu'en Chine, c'est tout à fait autre chose qui se joue. Alors, comment aussi, je dirais, écouter ou regarder la peinture chinoise pour qu'elle nous apprenne quelque chose concernant le vivre autrement ? Par rapport à notre vivre occidental qui est aujourd'hui, je dirais, si malade, au fond. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, j'aurais envie de vous poser une question sur, justement, l'écoute, puisque Heidegger nous invite à écouter le grec, écouter les Grecs, et développe une pédagogie de l'écoute. S'il y avait une pédagogie de l'écoute de la Chine chez François Julien, comment s'articulerait-elle et comment se pense-t-elle ?
Alors, cette écoute, elle est, et justement, c'est intéressant ce que vous me précisez. Cette écoute, elle est liée à la manière dont François Julien entend la langue chinoise. Je prends un seul exemple. Entrer dans une pensée. Il a fait le pari, alors ce qui l'a conduit à des simplifications inévitables, mais bon, ça, on en discutera, et puis il s'exprimera autrement dans des livres suivants, c'est pas grave. Il prend le début d'un grand classique chinois. Il appelle ça une première phrase de chinois. Une première phrase de chinois qui est liée à la syntaxe chinoise. On pourrait dire même à la respiration de la syntaxe chinoise. Il l'apprend dans le Yiqing, au classique du changement, pour prendre le titre traditionnel de ce livre de sagesse chinoise. Et il traduit de cette manière les quatre mots chinois séparés par du vide, ces quatre idéogrammes séparés par du vide. Yuan, Heng, Li, Zen. Il traduit commencement, essor, profit, rectitude. La première phrase, si on peut appeler ça une phrase, la première phrase que j'appellerais presque parasyntaxique, c'est pas du tout la syntaxe occidentale. C'est pas une syntaxe grecque, c'est pas non plus une syntaxe hébraïque, c'est une syntaxe chinoise. Commencement, essor, profit, rectitude. Comment traduire ça ? Et je pourrais dire que l'intérêt de François Julien, au fond, pour moi, c'est qu'il soit traducteur du chinois à la limite, en mettant en question ce que la langue, les langues occidentales, en l'occurrence le français, qu'il parle d'ailleurs très bien, permettent de dire, d'énoncer. De même que Heidegger essaie de suivre autant qu'il peut, aussi loin qu'il peut, la syntaxe grecque, en la transposant, en faisant jouer effectivement une autre syntaxe à l'intérieur de l'allemand, qu'il maîtrise évidemment parfaitement, sans jamais être barbare, à la différence de certaines traductions de Heidegger, ça c'est encore autre chose. Et alors il dit par rapport à ça, il oppose une entrée hébraïque, c'est-à-dire la première phrase du livre de la Genèse, Bereshit bara Elohim, et puis une autre phrase, mais c'est pas tout à fait une phrase, c'est le début de la théogonie d'Hésiode, le début de la théogonie d'Hésiode. Et il montre comment, effectivement, alors ça c'est son pari, d'une certaine manière on peut rapprocher la syntaxe de la phrase biblique, la syntaxe de la phrase hésiodique, face à la Chine, eh bien en Chine il se joue quelque chose de tout à fait différent que la langue ne permet pas de dire de la même manière. Et c'est ça que j'appelle l'écoute, c'est-à-dire il nous invite à écouter ce que dit la langue chinoise. Profondément. Et ça c'est extrêmement fort. Et c'est justement ça, je dirais que me conduirait, moi, à me rapprocher de lui dans ses conclusions qu'il donne, finalement, dans Philosophie du vivre. Parce qu'il va chercher, au fond, je suis d'accord avec lui, moi j'ai fait la même chose en me cantonnant dans Heidegger et puis dans le christianisme, mais un petit peu du côté de la Grèce aussi, dans mon livre « L'être et le divin ». Où je suis parti, d'ailleurs, non pas seulement de Heidegger le philosophe, mais de Heidegger lecteur de Hölderlin. Et j'ai compris pourquoi Heidegger trouvait Hölderlin si essentiel pour lui. C'est qu'il trouve dans Hölderlin une pensée exprimée en langue poétique qui, d'une certaine manière, dit-il, est devant nous. C'est-à-dire a atteint une région de sens, de profondeur, de vérité sur l'état de l'Occident qu'aucun philosophe n'a atteint par la suite, même Nietzsche, dit-il. Et c'est de ce côté-là qu'il essaye d'aller, en entendant ce qui peut se dire dans la langue de Hölderlin, qui n'est pas la langue grecque, qui est une langue moderne. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut aller. C'est une des conclusions de François Julien quand il dit, il oppose au début mutos et logos. Mythos qui est du côté plutôt de l'imagination, du mythe, de la poésie, et puis Logos qui est plutôt du côté de la métaphysique, de la conceptualité philosophique. Et il a l'air de dire, ce que je crois aussi, si je suis Heidegger, le Heidegger lecteur de Hölderlin, qu'il y a une façon de revitaliser le mythos, qui est aussi une façon, c'est ma conviction profonde, de revitaliser ce que j'appellerais non pas la métaphysique chrétienne, mais l'expérience religieuse en Occident. C'est tout à fait autre chose. L'expérience religieuse qui est première. Je pense que la conceptualité qui est advenue au christianisme, la théologie chrétienne, elle est seconde. Que ce qui est premier, c'est une espèce de, c'est une expérience du divin qui a profondément une source hébraïque. Fondamentalement une source hébraïque. À ça, je me suis rendu compte. À savoir, il est impossible de comprendre l'Apocalypse de Jean ou les Épîtres de Saint Paul, puisque j'écris aussi un petit livre de Saint Paul, sans voir à quel point c'est enraciné dans la tradition juive, même si en même temps, ça ouvre quelque chose d'inouï, qui est de l'ordre d'un événement, qui est effectivement inadmissible pour les juifs, qui est l'incarnation, qui est le fait que le Messie est arrivé. Et donc ça coupe l'histoire en deux, d'une certaine façon. Alors ça, c'est effectivement l'événement créateur, mais qui s'exprime aussi à partir du fond judaïque, mais comme une révolution absolue, c'est une coupure. Voilà. Mais ça, c'est une histoire propre à l'Occident, compliquée en Occident. La Chine n'est pas du tout, en effet, dans cette histoire-là. Mais je crois en même temps que ça permet de surmonter la contradiction mythos-logos dans laquelle il ne faut pas rester trop longtemps. La poésie, elle pense. Elle pense d'une autre manière. Et je pense qu'à propos de Hölderlin, Heidegger nous fait comprendre, en lecteur de Hölderlin, que la poésie, elle pense en avant pour ceux qui seront capables de tirer quelque chose de cette pensée-là qu'elle contient poétiquement. Je crois, et je pense notamment à cette phrase qui m'a beaucoup frappé de Hölderlin quand il dit « La religion, c'est la poésie originaire ». Je pense que c'est une phrase très profonde. La religion, c'est pas d'abord du dogme et de la théologie et pas de la métaphysique du tout. La Bible hébraïque n'est absolument pas de la métaphysique. Ça s'est dit très clairement d'ailleurs dans ce petit volume, voyez, par Pascal Marin, c'est très clair. La Bible hébraïque n'est absolument pas de la métaphysique. La métaphysique, ça arrive plus tard et c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça ne triomphe pas tout de suite, en tout cas, pas du tout. Hein. La coupure avec la Grèce, elle est première. Mais je pense cette idée que l'expérience religieuse, la religion, c'est la poésie originaire. Et c'est peut-être ça qui manque le plus. Effectivement, la mort de Dieu, c'est pas tellement la mort de Dieu, c'est plutôt le fait que, d'une certaine manière, une partie de la religion qui a été dominante en Occident, elle perd de sa vitalité poétique, ça c'est sûr. C'est plutôt ça que je dirais. Plutôt que de sa vitalité théologique, il me semble en tout cas, c'est ce que je risquerais.